Il me semble que le pape que l'on doit élire doit dépasser les 65 ans. Il doit être le père de tous, et un âge expérimenté, joint à une vie sainte et à une bonne intelligence, plaise à tous. Songeons qu'auparavant, les papes ne dépassaient pas l'âge de Pierre. Une erreur pouvait être corrigée en quelques lustres, on pouvait plus facilement changer d'opinion. Mais aujourd'hui, élire un pape jeune, sauf par inspiration divine, ne me paraît pas très prudent. Les longs gouvernements furent toujours la ruine des républiques. Journal du cardinal Fiorentino lors du conclave de 1878.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Chacun sait que l'élection pontificale est un moment important, voire émouvant, pour l'Église catholique. Le conclave, nous le connaissons bien parce que nous avons l'habitude, par la télévision, d'attendre la fumée blanche, de voir apparaître le cardinal annonçant l'élu, et enfin, voir la première bénédiction du pape élu. Mais le système du conclave, tel que nous le connaissons, s'est mis très lentement et très progressivement en place. En effet, pendant environ 10 siècles, l'Église a plutôt fonctionné sur le principe que l'évêque de Rome devait être désigné par le clergé et le peuple. Il est même très probable que, au 2e, 3e, 4e siècle, la communauté romaine pouvait effectivement se réunir avec son clergé et acclamer celui qu'elle jugeait le plus apte à diriger l'évêché de Rome, puis l'Église progressivement. Le problème était que Rome s'est christianisée nettement à partir du 4e siècle. Et comment faire apparaître le peuple comme un élément déterminant de l'élection de l'évêque de la cité éternelle? Le clergé aussi. Il y avait tout de même quelques centaines, voire quelques milliers de prêtres dans le diocèse de Rome. Comment les faire tous participer à la désignation? Donc, progressivement, on a pris l'habitude de réserver à quelques clercs de l'entourage pontifical, quelques évêques, qui, à l'époque carolingienne, désignait le pape. D'autre part, durant ces premiers siècles de l'Église, on demandait au nouvel élu une profession de foi. De même qu'il fallait annoncer à l'empereur de Constantinople l'élection de l'évêque de Rome, ce qui se fit en particulier entre le 6e et le 8e siècle. Puis, à partir du 8e siècle, l'Empire ayant été restauré en Occident, c'est à l'envoyé de l'empereur carolingien qu'en 824, on impose au pape une prestation de serment. Autre élément qui venait brouiller les cartes dans la désignation de l'évêque de Rome, c'était la pression des barons romains. L'aristocratie romaine avait tout intérêt à avoir un pape à sa main, à avoir un pape issu de sa famille ou de ses amis. Ainsi, les barons faisaient effectivement pression sur les électeurs pour obtenir une élection la plus positive possible. Il était donc essentiel pour l'Église, à partir du XIe siècle, d'essayer d'envisager un nouveau système pour se libérer de la gangue de ceux qui voulaient vraiment contrôler l'élection du pape. C'est à partir du XIe siècle que le système du conclave tel que nous le connaissons entame le processus d'organisation. Cette organisation est à replacer dans un contexte historique important. D'abord, il est indéniable qu'il y a qu'il y a sans doute eu une influence du monachisme dans l'organisation du conclave. Les monastères désignaient leur père abbé. Et le monastère de Cluny, très favorable à la réforme de l'Église, a pu influencer l'organisation des conclaves. D'autre part, dans le cadre de la rupture avec la chrétienté d'Orient, il fallait clairement se dégager de toute influence impériale et donc mettre en place un système d'élection où l'Église aurait une relative liberté. Et enfin, c'est également dans le cadre de la querelle des investitures, c'est-à-dire de la querelle entre la papauté et le Saint-Empire romain germanique pour désigner les évêques, que se place la réforme liée au conclave. Ainsi, c'est bien dans le cadre de ce que les historiens ont appelé la réforme grégorienne qu'il faut comprendre l'évolution du conclave. Nicolas II publie en 1059 le décret In nomine Domini. L'élection du pape est désormais réservée aux seuls cardinaux. Puis, après le vote des cardinaux, l'élection est confirmée par l'acclamation du clergé de Rome et par le peuple de Rome, ce qui est en fait un lointain souvenir de ce qui se faisait au premier siècle de l'Église. Autre élément, c'est que le troisième concile du Latran en 1179 a publié le canon 1 de son concile qui prévoit que le pontife ne sera élu qu'avec une majorité des deux tiers. L'affaire était importante parce que il fallait, avec les deux tiers, une vraie majorité. Il fallait que l'élection du pontife soit la moins discutable possible. Avec deux tiers de majorité, l'élection était effectivement claire. Mais ces deux décisions de 1059 et 1179 n'ont pas empêché des élections extrêmement longues. À vrai dire, entre 1268 et 1271, les cardinaux n'ont pas pu se mettre d'accord pour élire un pape. Aussi, celui qui est élu en 1271, Grégoire X, publie une constitution apostolique, Ubi Periculum, en 1274, qui prévoit véritablement le système du conclave tel que nous le connaissons. Que précise cette constitution ? D'abord, l'élection aura lieu à partir du dixième jour suivant le décès du pape. Il faut éviter que les cardinaux perdent trop de temps, et c'est vrai que les 2 ans et demi d'interrègne avaient provoqué un scandale dans la chrétienté. D'autre part, elle se tiendra là où est mort le pontife, ou à une proximité immédiate. Ceci explique que, par exemple, au XIIIe siècle, il y eut des élections à Viterbe, à Pérouse, à Naples et même à Lyon. Et puis, et c'est ce qui a donné le nom au conclave, on enferme les cardinaux électeurs, cum clavis, conclave, avec des clés, dans un dortoir commun, afin qu'ensemble, ils puissent mieux écouter l'inspiration divine et le Saint-Esprit. D'autre part, on prévoit une loi du secret d'élection par prestation du serment sur les évangiles et sous peine d'excommunication. Ainsi, avec le décret de Nicolas II, le décret du troisième concile de Latran et la constitution de 1274, les éléments essentiels des conclaves sont mis en place. Est-ce à dire qu'il n'y a pas eu des évolutions ? Elles ont été, en fait, relativement nombreuses. D'abord, à propos des cardinaux. Le pape Sixte Quint, élu en 1585, avait promulgué une constitution demandant à ce qu'on ne dépasse pas les 70 cardinaux pour le Sacré Collège. Jean XXIII a fait littéralement exploser les effectifs des cardinaux, puisque sous son pontificat, on a dépassé les 90, et Paul VI, et ensuite Jean-Paul II, ont créé de nombreux cardinaux qui ont montré une internationalisation, mais qui fait que désormais le Sacré-Collège n'est pas de 70, mais d'environ 120 électeurs. D'autre part, Paul VI, en 1970, a exclu du Sacré-Collège les cardinaux de plus de 80 ans. Autre élément, purement matériel cette fois-ci, c'est que le dortoir commun a été remplacé par des cellules individuelles en 1351. Le pape Jean-Paul II, par une constitution apostolique de 1996, a décidé que les cardinaux pourraient, après les tours de scrutin, aller manger et se reposer à la pension Sainte-Marthe au sein du même du Vatican. D'autre part, il y a un élément aussi important qui a joué. c'est la question du droit d'exclusive. À partir du XVIe siècle, les puissances catholiques ont pris l'habitude, sans que l'Église ne le reconnaisse officiellement, mais qu'elle l'a toléré, une possibilité de mettre un veto sur l'élection d'un cardinal. Le roi d'Espagne, l'empereur d'Autriche, le roi de France, avaient donc des droits d'exclusive sur tel ou tel cardinal du Sacré Collège. Le dernier droit d'exclusive a été utilisé en 1903, lors du conclave qui a élu le pape Pie X. C'est le cardinal archevêque de Cracovie, Pugina, qui, à la demande de François-Joseph, a posé son veto à l'élection du cardinal Rampolla, accusé d'être trop proche de la France. Ainsi, la constitution apostolique Vacante Sede Apostolica, qu'a pris Pie X en 1904, interdit cette fois-ci toute intervention de pouvoir laïque dans la désignation du pontife. On voit donc que le conclave est une affaire de longue haleine. Désormais, il est peu probable qu'il y ait de grandes révolutions dans l'organisation du conclave, même si on évoque de temps à autre la possibilité d'intégrer les responsables des conférences épiscopales. Non, la vraie révolution, elle a eu lieu peut-être en 2013, lorsque, pour la première fois depuis 1294, de plein gré, un pape, en l'occurrence Benoît XVI, a décidé de remettre sa charge et donc de provoquer un nouveau conclave. Peut-être que c'est un cas qui sera suivi d'autres.